Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Pour commencer le sermon aujourd'hui, je tiens à vous citer un article de notre site internet vieespoirevérité.org. Donc je vais lire l'article qui s'appelle « Que représente la grâce ?» D'après la Bible, Dieu nous fait grâce et nous sommes sauvés par sa grâce. Cela signifie-t-il que nous n'avons plus besoin d'obéir à Dieu? La grâce fait-elle obstacle aux saintes lois de Dieu? Est-elle en conflit avec elle? On pense souvent qu'on est soit sous la grâce, soit sous la loi. Que déclare la Bible, en fait? Le mot « grâce » vient du mot grec « charis », dont est dérivé notre mot français « charité ». Le mot « grâce » signifie, entre autres, « faveur non méritée ». Faveur non méritée. Et c'est le don de Dieu à ceux qui se sont sincèrement repentis d'avoir transgressé ses saintes lois. Il est nécessaire de bénéficier de cette grâce, car quiconque transgresse les lois divines s'attire l'amende de la mort. Et qui n'a pas péché? La Bible affirme clairement que Christ est mort pour nos péchés. Autrement dit, du fait des imperfections des hommes, la mort de Christ a permis à Dieu d'accorder la grâce à tous ceux qui se repentiraient sincèrement de leurs fautes et se mettraient à vivre conformément aux voies justes de leur Créateur. Voilà cet article qui nous permet un rappel de l'importance de la grâce de Dieu dans le contexte de nos péchés, dans le contexte du sacrifice de Jésus-Christ également. C'est vraiment important d'avoir une bonne perspective de cette différence entre ce que le monde pense et ce que les chrétiens du monde, entre guillemets, disent par rapport à la grâce et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais aussi, même si on a cet article, la grâce de Dieu a été accordée plusieurs fois avant la mort de Jésus-Christ. La grâce de Dieu apparaît plusieurs fois dans la Bible, mais souvent on se limite la discussion sur le sacrifice de Christ, qui est bien sûr très important. Pour avoir accès à la vie éternelle, il nous faut la grâce de Dieu, c'est certain. Mais dans ce sermon aujourd'hui, considérons d'autres exemples de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était avant le déluge. La grâce de Dieu était avant le déluge. Considérons Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Le contexte du déluge. L'Éternel s'est révélé à un homme qui, en fait, l'obéissait, à un homme qui allait démontrer sa foi dans l'Éternel. Considérons le chapitre 6, Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Nous avons le Créateur du monde ici, le Créateur qui se repent d'avoir fait ces créatures, parce que le mal était partout. Le mal dominait sur la terre jusqu'au point où ça touchait toute la vie humaine. Toute la vie humaine était en rébellion contre le Créateur. Mais au verset 8, nous lisons, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Encore une fois, Ici, c'est avant le déluge, c'est quand même dans les conditions les pires, juste avant le déluge, juste avant l'annoncé du déluge. Mais nous trouvons que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc la grâce de Dieu était avant ce déluge. Comment comprendre le verset 8, en fait? Il semble que la grâce de l'Éternel pour Noé, un homme juste, ne s'appliquait pas pour les méchants. Pourquoi? Noé croyait dans le Dieu créateur qui est capable d'enlever ou d'envoyer un grand déluge, et il savait ou il croyait que Dieu était capable de sauver cet homme et sa famille de ce déluge. Donc Noé croyait en Dieu. Considérons maintenant le verset 22. 22. Genèse chapitre 6 et le verset 22. Et ce n'est pas seulement le fait que Noé croyait en Dieu, mais il voulait obéir ses commandements. Il voulait suivre ses instructions pour lui. Genèse chapitre 6 maintenant et le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Parce que Dieu l'avait expliqué comment se sauver de ce déluge, comment il voulait qu'il procède pour préparer des animaux, pour préparer les besoins pour sa famille. Et il avait expliqué ces choses, un grand travail, bien sûr. Mais avec l'aide de Dieu, il allait réussir. Mais Noé, comme il est écrit ici, c'est lui qui exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas répondu en se disant, OK, l'Éternel, si toi tu me fais une arche, si toi tu me rends le bateau ici, moi je vais juste monter dans le bateau et quand la pluie va commencer, quand les choses vont commencer à avoir le déluge, en ce moment-là, je serai sauvé. Non, Dieu l'a quand même expliqué qu'il fallait préparer. Il fallait préparer d'être sauvé. Considérons maintenant Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Quand même, ce chapitre, on l'appelle souvent le chapitre de la foi. Il y a beaucoup d'exemples de la foi. Très important pour nous de réfléchir à ces exemples des personnes qui ont, malgré leurs circonstances, ils ont mis leur foi avant toute chose. Ils ont démontré leur foi face à face à des circonstances, des situations très difficiles. Et Noé se trouve dans cette liste. Hébreux chapitre 11, nous lisons de Noé à partir du verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, dans ce petit verset, nous avons vraiment toute l'histoire qui est résumée ici. C'est que Dieu l'a averti. Il a averti de quelque chose d'incroyable, d'un grand déluge que le monde n'avait jamais connu, et il a réagi. Il avait une crainte respectueuse. Il n'a pas oublié, il n'a pas fait son propre plan. Il a fait la volonté de Dieu. Et donc il a construit cette arche pour sauver sa famille. Et c'est comme ça que Dieu a condamné le monde, qui était complètement rempli de mal, comme nous l'avons lu en Genèse chapitre 6. Donc nous avons ce bon exemple de la vie de Noé, quelqu'un qui a passé beaucoup d'années à préparer l'arche, à préparer pour sa famille, et quand le déluge est arrivé, c'est que Noé était prêt. C'est par sa foi que l'humanité a été sauvée, parce que si Noé n'avait pas fait sa part, la vie sur la terre aurait été arrêté. Maintenant, passons à un autre exemple de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était avant la nation d'Israël. La grâce de Dieu était avant la nation d'Israël. Considérons Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, au début du chapitre, nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Verset 2, « Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » Continuons à lire, verset 4. « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » L'Éternel se révèle non seulement à Moïse, mais il voudrait que son nom soit connu devant le peuple Israël, qui était en esclavage en Égypte, qui n'était vraiment pas un peuple ou une nation à eux, mais ils étaient en esclavage. Et nous lisons ici des conditions dans lesquelles ils vivaient à cette époque. Ils vivaient avec des travaux très lourds. Et donc, l'Éternel avait prévu de les libérer de cette situation. C'est ça la promesse qu'il a faite envers ce peuple. Et puis, il dit verset 8, « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Une grande promesse que avec cette terre promise, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, allaient pouvoir devenir une nation à eux. Une nation qui dépendait, qui était prévue d'être une nation sainte, une nation mise à part pour un but particulier. Maintenant, si nous sautons plusieurs chapitres, considérons le chapitre 32, Exode chapitre 32. Ce même peuple, après avoir vu tout ce qui s'est passé en Égypte, après être sauvé, délivré par l'Éternel, ce même peuple est allé en rébellion contre l'Éternel. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Donc nous avons quand même... Déjà, avec la promesse que Dieu fait envers son peuple, c'est quand même sa largesse, son amour, sa capacité de tenir ses promesses, ses engagements, la promesse, l'alliance avec Abraham. Il allait accomplir ce qui était prévu. C'était pour ça aussi qu'il a délivré Israël. Et nous voyons ce que ce peuple a fait. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Quelques moments plus tard. Exode chapitre 32 et le verset 19. « Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables, ça c'est Moïse, et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et il le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. » Moïse était, on peut dire, un peu fâché en ce moment-là. Il était fâché, il était déçu de ce peuple. Donc, verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Donc, dans cet exemple, nous avons quand même un peu de colère qui apparaît. Il y a la colère. Il a quand même brisé les deux tables au pied de la montagne. Et Aaron a vu ces choses. Aaron ne voulait pas que sa colère continue envers eux. Par contre, ce qui s'est passé plus dans les versets suivants, c'est que 3 000 ont été tués par la tribu de Lévi. 3 000 personnes ont perdu leur vie ce jour-là. Puis au verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Ici, on voit déjà le fait que Moïse intervient auprès de Dieu pour le peuple. Donc, c'est concernant leur péché. Verset 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. C'est lui qui demande le pardon pour eux, de leur part. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Déjà, les péchés du peuple ne s'appliquaient pas à Moïse dans ce sens-là. Intéressant, la distinction que Dieu fait tout de suite ici avec cette discussion avec Moïse. Verset 34, Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Je les punirai de leurs péchés. Puis au chapitre 33, l'Éternel dit à Moïse, Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, Je le donnerai à ta postérité. Et puis, on saute quelques versets, on se trouve au verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Donc, encore une fois, cette interaction face à face, entre guillemets, avec Dieu, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Puis au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, Voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître que tu enverras avec moi. Qui tu enverras avec moi? Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Encore une fois, il essaie d'intervenir pour cette nation. L'Éternel répondit au verset 14, Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est un peu la même chose qu'il avait dit avant. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Puis verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Après quoi, les tablettes de pierre contenaient les 10 commandements, et le peuple a vécu quand même dans le désert, mais Dieu quand même a tenu ses promesses, il a tenu ses engagements, et il n'a pas oublié qu'il allait sauver cette nation pour créer une nation sainte dans cette terre promise, tout comme il avait prévu de faire. Malgré ce que le peuple faisait, malgré leur comportement, Dieu allait accomplir son plan. Il aurait pu arrêter, il aurait pu laisser périr tout le monde, tous les enfants d'Israël dans le désert, mais Dieu a permis que une génération suivante monte, comme il dit, monte en terre promise. Donc, la grâce de Dieu était avant la nation d'Israël. Dieu était avec ce peuple. Dieu guidait Moïse. Et par la main de Moïse, le peuple est entré jusqu'à la frontière de la terre promise. Et puis, après, le bâton a été passé à la génération suivante. Un autre exemple de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu était avant le sacrifice de Jésus-Christ. La grâce de Dieu était avant le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu avait déjà prévu son plan pour l'humanité, le plan de salut. En parlant à Abraham, Dieu a dit, l'Éternel a dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc vraiment, même avant la nation d'Israël, même avant Jacob, il y avait une promesse que toutes les familles de la terre allaient bénéficier de la grâce de Dieu, de cette promesse, de cette bénédiction et le fait que Dieu allait intervenir pour accomplir son plan. Considérons 1 Pierre pour avoir le contexte pour nous. 1 Pierre chapitre 1. Parce que cette prophétie se répète dans le Nouveau Testament aussi. Mais pour avoir le contexte, lisons ici 1 Pierre chapitre 1 et à partir du verset 3. 1 Pierre 1 et le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, on a ce contexte que Dieu fait une œuvre spirituelle. Il accomplit une œuvre spirituelle. Peut-être que ce n'était pas complètement clair au moment de Genèse chapitre 12 et le verset 3. Comment allait l'Éternel bénir toutes les familles de la terre? Comment ça allait se produire? Verset 10, 1 Pierre 1 et le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, depuis des siècles, les prophètes faisait une recherche de ces choses pour connaître, pour comprendre l'accomplissement de ce plan, étape par étape. Ils voulaient avoir une vision plus loin que leur propre vie. Ils voulaient comprendre la fin de ces choses, mais Dieu les a révélées étape par étape. Et donc, nous avons au verset 11 ici, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, l'attestation de cette souffrance, l'attestation de cette grâce était avant le sacrifice de Jésus-Christ, avant la mort de Jésus-Christ. Et donc, nous avons au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, on nous oriente vers, Pierre nous oriente vers l'avenir aussi, que le fait que Dieu va envoyer son Fils, Jésus-Christ, comme roi des rois, ça sera aussi une grâce pour le monde entier, parce que, comme c'est écrit dans la Bible, si Dieu n'intervient pas, l'homme va s'autodétruire. Donc, nous avons pas mal de temps ici. Si on pense à une ligne de temps, nous avons pas mal de l'histoire humaine qui est écrite, qui est mentionnée ici dans quelques versets de 1 Pierre, de cet épître de l'apôtre Pierre. Mais considérons la prophétie que nous avons lue tout à l'heure, maintenant que nous avons lu ce contexte de l'œuvre spirituelle qui est accomplie aujourd'hui. Donc, Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, lisons à partir du verset 25. Actes chapitre 3 et le verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, et en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, nous avons quand même cette répétition de ce que nous avons lu en Genèse chapitre 12 et le verset 3. Mais maintenant, il y a une sorte de compréhension meilleure qui va avec. Nous sommes dans une ère différente. Nous sommes dans l'ère de l'Église du Nouveau Testament maintenant. Et nous avons une compréhension de comment Dieu accomplit ces choses. Considérons maintenant l'épître de Jacques et le chapitre 1. L'épître de Jacques, chapitre 1. Comment allons-nous répondre à cette révélation, à cette bonne nouvelle, à cette nouvelle que Dieu accomplit cette œuvre? Nous avons déjà lu que l'implication, c'est qu'on détourne de la voie du péché, on se repente. Maintenant, nous avons Jacques chapitre 1 et le verset 21. Je peux commencer au verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et puis nous continuons au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Après avoir lu ça, comment est-ce qu'on peut dire que nous avons à oublier la loi de Dieu, que nous ne sommes pas obligés par la loi de Dieu de l'obéir? Comment allons-nous trouver la vérité et la mise en pratique des préceptes et de la parole de Dieu si nous ne sommes pas en train de plonger nos regards dans la loi parfaite pour trouver la vérité, pour la mise en pratique de cette vérité, de cette loi, et de pouvoir après continuer et de ne pas être un auditeur oublieux? Donc, nous avons besoin de la grâce de Dieu, c'est sûr. Nous avons besoin de l'accès que la mort de Jésus-Christ nous donne à la vie éternelle, mais surtout, nous avons besoin aussi de plonger nos regards dans la loi parfaite pour mieux comprendre notre Dieu et aussi pour comprendre sa volonté pour nous, pour accomplir sa volonté ici sur la terre. Donc, nous avons la possibilité d'être pardonnés, c'est certain. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place. Mais par contre, nous avons besoin d'obéir à la loi de Dieu. Romains chapitre 3 et le verset 24 nous indiquent: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais ça n'empêche pas que nous avons besoin d'obéir à la loi de Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu qui est le péché, en fin de compte. Donc, si nous continuons à pécher, nous mettons ces choses en question. La mort de Jésus-Christ devient quelque chose qui n'a pas d'impact sur nous si nous vivons encore dans le péché. Donc, même si Christ est mort, le péché continue à produire la mort dans les hommes. Donc l'homme a besoin de changer de cette voie qui mène à la mort pour s'approcher de Dieu. C'est pour ça que je vais vous parler maintenant de la grâce de Dieu qui était avant l'appel de notre Père céleste dans nos vies. La grâce de Dieu était avant l'appel de notre Père céleste. Considérons 2 Timothée maintenant et le chapitre 2. 2 Timothée et le chapitre 2. De Timothée chapitre 2 et le verset 1. Paul écrit à Timothée, il lui donne des instructions ici. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables à l'enseigner aussi à d'autres. Comment nous fortifier dans la grâce de Dieu? Comment nous fortifier, comment allons-nous nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ? Déjà, il faut connaître Jésus-Christ, il faut connaître ses commandements, il faut connaître sa loi, la loi de Dieu, il faut connaître son caractère si nous allons nous fortifier dans la grâce qui est en lui. Mais considérons un peu avant cette exhortation, l'explication de Paul envers Timothée. 2 Timothée chapitre 1 maintenant et commençons à lire au verset 8. C'est quand même, on se trouve dans une exhortation au verset 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Puis au verset 8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de vos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Ça se réfère à Jean chapitre 1 aussi. Mais nous avons ici cet exemple de ranimer l'esprit, de continuer, de ne pas avoir honte dans le témoignage. Mais quand nous continuons à lire verset 10, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Donc, c'est une sainte vocation. Il parle d'une sainte vocation. Et il ne parle pas de nos œuvres ici. Il dit que ce n'est pas à cause de vos œuvres que Dieu a fait ceci, mais c'est par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que l'humanité a fait pour mériter la grâce de Dieu, pour mériter le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu qui fait que le Père a envoyé son Fils. Notre Sauveur. Considérons maintenant Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Ça revient à ce que nous avons lu dans l'article de Vie, Espoir et Vérité, que c'est quand même un pardon non mérité. C'est pas quelque chose que nous méritons de recevoir la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 2 et le verset 9 pour commencer. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Pour tous. Pour tous les hommes qui aient jamais vécu et qui vont vivre dans l'avenir aussi. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Donc, c'était quelque chose qui était ou qui est pour toujours, depuis toujours, dans le plan de salut. Mais c'est quelque chose qui est déjà arrivé maintenant. Il y a, quand nous avons lu de Noé, quand nous avons lu d'ancien Israël dans le passé, nous avons lu d'un peuple qui ne connaissait pas Jésus-Christ, qui ne connaissait pas le sacrifice en Jésus-Christ. Ils connaissaient Dieu, ils connaissaient l'Éternel. Dieu marchait avec eux, c'est sûr, mais ils ne connaissaient pas jusqu'à quel point Dieu allait intervenir pour leur péché. Mais nous, nous avons la possibilité de connaître cette vérité, le fait que Dieu le Père ait envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place. C'est très, très intéressant à considérer le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ça nous dit tellement de choses dans ce petit verset par rapport au plan de salut pour toute l'humanité. Personne et elle est exclue de ce plan de salut. Nous avons tous accès à ce plan de salut, mais chacun dans son propre temps. Très intéressant quand nous considérons notre but dans la vie, notre raison d'être, c'est que Dieu nous conduit à la gloire, que Dieu est en train de créer une famille. C'est quand même quelque chose qui devrait nous inspirer, nous aider à lutter contre les épreuves de la vie, les choses qui se passent dans le monde qui nous fait peur peut-être de temps en temps. Bon, n'ayons pas peur parce que nous avons quand même la vérité de Dieu. Il nous a révélé cette vérité pour nous encourager dans notre vie chrétienne, dans notre lutte contre ces choses. Donc, nous allons surmonter ces épreuves, nous allons continuer jusqu'à la fin comme de bons fils, de bons enfants de Dieu. Considérant ce que Paul écrit à Tite, Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, Tite chapitre 2 et le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous avons accès aujourd'hui, dans cette époque actuelle, nous sommes, comme nous faisons partie de l'Église de Dieu, nous avons accès à cette nouvelle alliance, cette possibilité de vivre sous la loi de Dieu et de nous présenter saintes avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en nous. Donc le verset 13 continue, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous quand même, nous prions que ton règne vienne, parce que malgré cette lutte, il faut quand même qu'on reste les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est en principe la même chose que Dieu voulait faire avec la nation d'Israël. C'était de créer un peuple, une nation sainte, qu'il a fait et il a employé ce peuple. Mais ce peuple, comme nous l'avons déjà lu, est tombé en rébellion contre le Dieu qui les a sortis d'Égypte. Nous avons ce rappel ici que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. Et très intéressant, afin de nous racheter de toute iniquité. De toute iniquité, de toute transgression de la loi, quand nous repentons, Dieu peut nous pardonner de n'importe quelle transgression de sa loi. Il n'y a aucune transgression qui est au-delà de la capacité de Dieu à pardonner quand nous repentons. C'est seulement dans la rébellion que nous avons quand nous n'avons pas accès à ce pardon, parce que chacun a ses choix à faire, et donc Dieu nous permet de choisir, et si nous choisissons le choix de rester en rébellion contre Dieu, bah, ce n'est pas comme ça que nous allons accéder ce pardon. Mais quand nous cherchons le pardon de Dieu, quand nous repentons, il n'y a aucune transgression, il n'y a aucune iniquité qui ne peut pas être pardonné. Ça doit nous rassurer, ça doit nous encourager dans notre lutte et quand nous continuons la lutte à surmonter les épreuves de ce monde. Et restons aussi comme Paul écrit à Tite, restons aussi zélés pour les bonnes œuvres. Dieu nous permet de recevoir le baptême, de recevoir l'imposition des mains pour recevoir son esprit. Mais à nous de se soumettre à ce baptême. Il n'est pas en train de nous baptiser lorsque nous n'avons pas demandé le baptême. Il faut demander, il faut se repentir et il faut se soumettre au baptême. Personne ne peut recevoir le baptême à notre place et nous n'avons pas la possibilité de recevoir le baptême à la place d'autrui. Mais Dieu travaille avec chaque personne sur le plan personnel et individuel. Par contre, Jésus-Christ est mort à notre place, au niveau individuel, pour nous donner accès à ce pardon, par sa grâce. Donc, Romains chapitre 6 revient à quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, mais pour avoir cette logique, c'est quand même un peu parabolique de l'apôtre Paul de dire ces choses, mais il y en a qui résonnent comme ça dans le monde d'aujourd'hui. C'est que si nous avons reçu le pardon de Dieu, alors nous allons juste vivre comme nous voulons, parce que la grâce de Dieu nous couvre dans tout ce que nous faisons. Donc, je vais juste vivre comme je veux et de temps en temps, je vais aller faire des prières pour me repentir et après, je vais juste revenir là-dessus en vivant dans ma propre façon de vivre. C'est ça que nous voyons dans le monde très souvent. Et c'est une attitude qu'on peut avoir aussi. C'est, je peux faire ceci, je peux faire cela, et un jour, je vais complètement me repentir et je vais vivre correctement. Mais pas aujourd'hui. Ça ne me convient pas aujourd'hui. J'attends plus tard pour vivre comme ça. Donc, Romains chapitre 6, Paul nous dit ici, Romains chapitre 6 et le verset 1, « Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est ça la phrase clé, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est ça le changement, c'est ça le repentir. C'est quand on va se repentir, on va changer de direction et on va continuer sur la voie qui mène à la vie. C'est une nouveauté de vie qui s'installe. Et c'est un engagement que chacun d'entre nous fait envers notre Créateur. Verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Nous pouvons espérer dans ce jour de changement ou de résurrection. Verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si nous obéissons aux lois du monde, si nous, dans le sens où si nous vivons dans le péché, nous sommes esclaves du péché. Nous n'avons pas le pouvoir sur le péché et nous sommes soumis au péché. Mais Paul vient de nous expliquer qu'il faut que nous soyons soumis pas au péché, mais au baptême, soumis comme des esclaves envers Dieu. Verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Nous devons enlever les contraintes de la mort, la punition de la mort, quand nous marchons avec cette nouveauté de vie. C'est Dieu qui nous permet à vivre et avoir accès par sa grâce à ce pardon, à cette nouveauté de vie. Et puis il continue au verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Paul nous exhorte à non pas seulement éviter le péché, à ne pas seulement éviter, c'est sûr qu'il nous exhorte à éviter le péché, mais aussi, ici au verset 13, il nous dit que cette nouveauté de vie implique que nous deviendions des instruments de justice, que nos mains, que nos pieds, que notre langue, que tout ce que nous a été donné par Dieu devienne un instrument de justice, que Dieu puisse travailler à travers de nous, dans la vie des autres. Donc, non pas seulement à éviter le péché, à couper ces choses de notre vie, mais à remettre ou à ajouter ou à fortifier nos bonnes œuvres pour servir Dieu comme des instruments de justice. Donc la mort est prévalente dans le monde aujourd'hui, car le monde aujourd'hui qui est autour de nous est rempli de péchés. Est-ce qu'on peut argumenter que c'est peut-être pas aussi grave que l'époque de Noé, peut-être ou peut-être pas, mais Christ nous a quand même expliqué que dans le temps de la fin, ça sera comme dans les jours de Noé, que le mal sera partout. Mais même si le monde change, même si le monde va en déclin vers le mal, nous sommes obligés de rester les yeux fixés sur le royaume de Dieu et sur les standards, sur les préceptes, sur la façon de vivre que Dieu nous explique dans sa parole. Nous avons été créés dans l'image de Dieu, avec le potentiel de partager la nature divine de Dieu, comme ses enfants dans sa famille. Nous sommes mortels aujourd'hui et nous vivons pendant un nombre d'années. Nous sommes soumis à la corruption. Mais un jour, Dieu nous change. Dieu nous a promis un changement si nous acceptons ce qu'il propose pour nous. C'est de se repentir, c'est d'accepter son esprit, c'est de vivre en nouveauté de vie. Dans ce sens-là, Dieu nous aide à lutter contre le monde, contre les épreuves, contre la mort même, parce que si nous obéissons à Dieu, si nous marchons en nouveauté de vie, comme il a expliqué Paul, nous allons marcher jusqu'à la vie éternelle en entrant le royaume de Dieu. Donc Dieu nous prépare toutes ces choses et Dieu nous prépare pour toutes ces choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes obligés de passer par des épreuves. C'est parce que Dieu est en train de nous préparer pour un avenir merveilleux. Avant de terminer aujourd'hui, je voudrais lire une partie du psaume 136. Le psaume 136. Parce que pendant ce serment, j'ai quand même mentionné pas mal de quelques exemples de la grâce de Dieu, avant le déluge, de la grâce de Dieu qui existe depuis avant la nation d'Israël, et de la grâce de Dieu qui était avant la mort de Christ, et la grâce de Dieu qui était avant notre appel, l'appel de notre Père. Et je trouve que le psaume 136 résume cette grâce, que le psaume 136 parle beaucoup ici de la miséricorde de Dieu, mais si nous revoyons ici, si nous considérons les versets, Et je ne vais pas tout lire, c'est sûr, mais je vous le donne en sorte d'exercice pour votre propre étude biblique. Mais considérez la grâce de Dieu et considérez l'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu qui est impliqué dès la création, avant le fondement du monde. L'amour de Dieu qui a fait que Dieu a fait un monde qui est plein de beauté, qui est plein de sa création est jolie et inspirante. Sa création, les yeux qu'il nous a donnés nous permettent de voir cette création. Nos oreilles nous permettent d'entendre cette création et toutes sortes de choses. Si nous considérons tout ce que Dieu a mis en place pour l'humanité, nous commençons, je peux dire, à comprendre la grâce de Dieu. Mais si vous considérez tout ce qui est mentionné ici, il y a des sections ici de ce psaume concernant la création. Il y a des sections ici, des versets qui concernent la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Il y a aussi la partie qui concerne l'héritage, la terre promise. Et donc, à chaque instant ici, dans ce psaume, le psaume 136, nous avons des exemples de quelque chose que Dieu a fait pour l'humanité ou pour son peuple. Nous avons des exemples de comment Dieu est intervenu pour son peuple. Bon, je vous invite, en tant qu'exercice, d'imaginer ou de réfléchir, de méditer sur les moments dans la vie où Dieu est intervenu pour vous. Ces méditations pourraient nous permettre à même, je dirais, à même créer notre propre verset à aller avec ce psaume 136. Si nous écrivons ces versets, si nous écrivons les faits, les choses que Dieu a fait pour nous et les choses qu'il va faire, les promesses qu'il nous promet, je crois que nous allons créer, si nous faisons cet exercice, nous allons créer une sorte de témoignage de la grâce de Dieu pour nous personnellement. C'est sûr que nous profitons aussi de tout ce qui est déjà dans cette liste, dans le psaume 136. Et spirituellement, c'est sûr que Dieu nous est sorti de l'esclavage du péché. Mais quand on considère toutes ces choses et quand on revient sur cette liste de temps en temps, on a la possibilité de considérer vraiment l'étendue de la grâce de Dieu. Donc, je vous laisse avec cet exercice et j'espère que ça sera un exercice pratique et aussi encourageant pour vous, considérant toujours que la grâce de Dieu existe depuis toujours. La grâce de Dieu existe depuis toujours. Ça fait partie du caractère de Dieu et Dieu a prévu par sa grâce à nous donner accès à la vie éternelle.